Bon matin, les saints justifiés. Nous autres ici, on a le privilège d'avoir le double titre. On est les saints justifiés parce qu'on connaît le Seigneur comme nos sauveurs, du moins je l'espère. Mais on est les saints justifiés aussi parce qu'on est des citoyens de Saint-Just. Et c'est comme ça que ça s'appelle, les citoyens de Saint-Just, les saints justifiés. Oh, la paix que Dieu donne, je ne la connaissais pas. Quel cantique, quel beau cantique. On va voir ce matin qu'est-ce que ça donne, la paix de Dieu. Comment on peut acquérir la paix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix de Dieu. Courbez-vous avec moi et prions avant de regarder la parole de Dieu. Ô Père Céleste, ce matin, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur Dieu. Te rendre la gloire pour ton œuvre, Seigneur, ton œuvre salvatrice dans nos vies, Seigneur. Te rendre la gloire pour ta parole, Seigneur, qui nous a révélé ce si grand salut. Te rendre la gloire pour ton Saint-Esprit qui nous a convaincus de ce salut, Seigneur. Père, guide-moi, Seigneur, que je puisse m'effacer, Seigneur, derrière ta parole et que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu, pour ce si grand salut. Parle à nos cœurs ce matin, on te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, la paix de Dieu, c'est un mot qui apparaît à nombreuses reprises. La paix, le mot paix, c'est un mot qui apparaît à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, même aussi dans l'Ancien Testament. Il y a principalement quatre aspects qui concernent ce mot-là. Faire la paix avec Dieu dans le sens d'être réconcilié avec Dieu. Alors, c'est la conversion, le salut. Avoir la paix de Dieu dans le sens, la paix de Dieu dans les épreuves, être capable de se reposer sur lui, de lui faire confiance en toutes circonstances. Être des messagers de paix. Alors, cette paix de Dieu-là qu'on a obtenue, pouvoir la partager, la transmettre à ceux qui nous entourent. Et la paix avec le monde qui nous entoure. Vivre en paix avec le monde qui nous entoure. Puis aussi, dans l'Ancien Testament, on voit que le mot « paix » est utilisé dans le sens d'absence de guerre. Mais ce matin, je veux surtout parler de faire la paix avec Dieu. Puis on va voir que cette paix-là, c'est comme un prérequis aux autres aspects de la paix que je viens de vous énumérer. Et on va regarder plusieurs passages des Saintes Écritures. Merci Yolande qui va vous retransmettre ça à l'écran. J'en ai donné toute une série de passages bibliques. Je fais ça, j'essaie de faire ça toujours comme ça parce que c'est la parole de Dieu qui nous convainc. Alors moi, je ne suis pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous partager la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous convainc. C'est la gloire qui doit revenir complètement à Dieu. Alors, l'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 6, les versets 14 à 16, il dit ceci. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Alors, Paul, c'est un prédicateur de la foi, un super prédicateur de la foi, puis il aurait eu raison de se glorifier de son travail, de ses souffrances, de toute son œuvre. Mais la seule chose dont il se glorifie, dit-il, c'est de la croix de Christ. Puis c'est à cela qu'il a consacré sa vie, son ministère. Comme il l'a dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand l'apôtre Paul allait de ville en ville, qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir si les personnes qui étaient là connaissaient Jésus-Christ comme leur sauveur. L'apôtre Paul, il déclare que le monde est crucifié pour lui et que lui est crucifié pour le monde. De quoi qu'il parle là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le monde est mort dans sa vie. Il n'y a plus rien à voir avec le monde. Il n'y a plus d'intérêt avec le monde. Puis aussi, le monde n'a rien à attendre de lui. Il n'y a rien à offrir au monde. La seule chose qu'il y a à offrir au monde, la seule chose qui l'intéresse dans le monde et qu'il y a à offrir pour le monde, c'est Christ. C'est la croix de Christ. C'est la seule chose qu'il a à voir avec le monde. Pourquoi? Parce que pour lui, tous ceux qui sont comme lui, c'est-à-dire qui sont sauvés par grâce, qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont obtenu miséricorde, qui ont signé le contrat que Dieu offre à travers l'Évangile, bien, tous ceux-là ont fait la paix avec Dieu. Puis, c'est ça que l'apôtre Paul veut connaître, veut savoir d'eux autres, puis veut leur communiquer. Dans Actes au chapitre 10, verset 36, il dit, il a envoyé la parole, c'est l'apôtre Pierre qui parle, c'est chez Corneille, après qu'il est allé chez Corneille. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Alors Dieu a offert la paix aux hommes en envoyant Jésus mourir sur la croix. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas autre chose que ça. C'est l'amour de Dieu à la croix, l'amour du Seigneur Jésus à la croix pour notre salut. Colossiens, au chapitre 1, versets 19 et 20, il dit, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. » Alors, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, comme il dit ici, c'est par le sang de la croix. C'est par la foi en Jésus-Christ que le croyant est réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être réconcilié avec Dieu que la croix. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, l'apôtre Paul, il est tellement dédié à ce ministère-là, corps et âme, il supplie les Corinthiens d'être réconciliés avec Dieu. Il dit, « Restez pas comme ça. Réconciliez avec Dieu absolument. Réconciliez-vous avec Dieu absolument. » 2 Corinthiens, le verset suivant, 21, 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, pour quelle raison que Christ nous a acquis cette paix-là? Bien, c'est parce qu'il est sans péché. Il nous a justifiés parce que il était sans péché, il a vécu sur la terre et il a accompli parfaitement la loi sans jamais commettre de péché. L'apôtre Paul, toujours dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 11 à 13. Alors ici, là, il y a un grand passage là, de chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 18. Il dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alors ici, l'apôtre Paul nous explique comment les non-juifs ont eu accès au salut. Il dit, souvenons-nous que dans la loi de Moïse, Dieu avait prescrit la circoncision et que nous, qui appellent les païens, On n'avait pas accès à ça parce que ce n'était pas dans nos rites. Ces rites-là de circoncision, c'était les Juifs qui faisaient ça. Il dit, on était incirconcis et privés du droit de cister en Israël, donc exclus de l'alliance promise par Dieu à Abraham. Puis, à cause de ça, il dit qu'on n'avait aucune espérance en ce qui concerne notre relation avec Dieu, en ce qui concerne le salut. Mais, tout cela, dit-il, a changé à la croix de Christ parce que le sacrifice de Christ nous donne accès maintenant au salut. Et il poursuit au verset 14. Il dit, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » L'inimitié, c'est le contraire d'amitié. L'inimitié, ce n'est pas l'amitié, c'est le contraire de l'amitié. « Ayant anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances et ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. » Bon, ça c'est un grand passage qui paraît un peu chinois, mais quand on le décortique, c'est facile à comprendre. « Lui qui des deux n'en a fait qu'un a renversé le mur de l'inimitié, le mur de séparation. » Les deux, c'est les Juifs puis les païens. Le mur de séparation, c'est la loi. Puis encore ici, l'apôtre Paul donne plus de détails. Il dit les deux, des deux qui n'en a fait qu'un. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre les Juifs puis les païens. Le mur qui les séparait a été anéanti lorsque Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire. Alors maintenant, il y a un seul homme nouveau. Il dit ailleurs dans l'Épître aux Romains, il n'y a plus ni juif ni grec. Les deux sont réconciliés avec Dieu par la croix. Et pour finir ce passage-là, au verset 17, il dit « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez prêts, à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns les autres auprès du Père par le même esprit. » Alors, à la croix, Jésus nous a acquis la paix aux circoncis et la même chose aux incirconcis. Il n'y a plus de différence. La loi et la circoncision, ce ne sont plus des critères pour avoir accès au Père. Maintenant, c'est la croix de Christ qui nous donne accès au Père, qui nous donne accès à Dieu. Et Paul ajoute, par un même esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Juifs, puis un pour les païens, c'est le même esprit. Car au salut, Dieu met son esprit dans les croyants, sans différenciation. Le même esprit. Puis ça, il fait ça quand? À la conversion. On va en parler tantôt. Il vient habiter dans le cœur des croyants, juifs et grecs. Il dit les uns les autres. Les uns les autres, c'est juifs et grecs. Circoncis et incirconcis. Maintenant, pourquoi c'est rendu pareil pour les circoncis, pour les incirconcis? Pourquoi qu'il n'y a pas de différence entre les circoncis et les incirconcis? L'apôtre Paul nous le dit dans Romains au chapitre 3. Encore là, un long passage qui nous explique comme faux la situation. Romains 3, verset 9. Jusqu'au verset 18. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Alors, quand il dit sommes-nous, nous, il parle des Juifs. Il dit, on est-tu meilleur que les autres? Il dit, non, on a déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. N'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il y en a combien qui sont pas égarés? Aucun. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin du salut. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils sont en guerre contre Dieu, autrement dit. Le diagnostic est clair. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Dès qu'on prend connaissance de la loi, qu'on a l'âge pour prendre connaissance de la loi, on est séparé de Dieu à cause du péché. Sans exception, on est séparé de Dieu. Nous ne connaissons pas le chemin de la paix. Je dirais même que nous sommes sur le chemin de la guerre. Sur le chemin de la guerre avec Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est en guerre avec nous. C'est nous qui sommes en guerre avec Dieu. Dieu ne veut pas la guerre avec sa créature. Dieu, il agite le drapeau blanc. Il y a une guerre, puis il fait face à cette guerre-là, puis il agite le drapeau blanc. Je dirais même plus que ça, il agite le drapeau rouge. Le drapeau du sang de Christ livré à la croix en rançon pour nos péchés. Jean 14, verset 27. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comment le monde donne-t-il? Quelle paix le monde peut-il nous donner? Le monde nous offre une paix basée sur les circonstances. Quand ça va bien, quand il n'y a pas de problème, quand on a le contrôle de la situation, on est en paix. Mais cette paix-là, sans Dieu, quand les circonstances se détériorent, deviennent défavorables, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, les cœurs se troublent et s'alarment. Il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Mais si on n'a pas la paix avec Dieu, c'est ça qui risque d'arriver. Et Dieu donne cette paix-là, c'est une paix durable. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. C'est une paix éternelle. Il la donne. Pour nous, ça ne coûte rien. Et on connaît ce passage-là dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, il dit, je vous donne la paix. Cette paix-là ne coûte rien pour nous. Ça a été d'un grand prix pour lui, mais pour nous, ça ne coûte rien. Et dans Romains au chapitre 5, verset 1, il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, comment cette paix-là nous est-elle donnée? Elle nous est donnée par justification. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la justification? Ça signifie qu'on est rendu juste devant Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, en mourant sur la croix, nous a rendus justes. Alors, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas notre état de perdition, il voit notre état de justifié. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde à travers Christ, à travers la croix de Christ. Il dit, il nous a rendus. C'est qui ce nous? Bien, l'apôtre Paul il dit, par la foi. Alors, nous, c'est ceux, c'est les croyants, c'est ceux qui croient. Ceux qui sont justifiés obtiennent la paix avec Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu. Dans Luc au chapitre 7, le verset 50, c'est l'épisode de la femme pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Il dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Alors cette femme-là, qui était une femme pécheresse, elle a lavé les pieds de Jésus de ses larmes et les a oints de parfum. Jésus ne lui dit pas qu'elle est sauvée pour avoir lavé ses pieds, mais elle est sauvée à cause de sa foi. Cette femme a donc été réconciliée avec Dieu par sa foi. Aucune œuvre ne peut nous réconcilier avec Dieu. Aucune œuvre. Tout le bien qu'une personne peut faire, ça ne suffit pas pour nous réconcilier avec Dieu. Ça n'a aucune valeur pour le salut. Venir à l'Église, ça n'a aucune valeur pour nous réconcilier avec Dieu. Donner dans l'offrande, ça n'a aucune valeur pour nous réconcilier avec Dieu. Visiter les malades, annoncer l'Évangile, ça n'a aucune valeur pour nous réconcilier avec Dieu, ça ne nous sauve pas. Priez, m'impliquer dans l'Église et mettez-en tout ce que vous pouvez imaginer, ça ne sauve pas. Toutes ces œuvres-là sont bien, mais elles sont inutiles pour nous réconcilier avec Dieu, pour faire la paix avec Dieu. Et tant qu'on n'a pas reçu Christ comme notre sauveur personnel, tant qu'on n'a pas accepté ce don-là que Dieu nous offre, on est en guerre avec Dieu. Comment donc faire la paix avec Dieu? Bien, ça commence par la repentance. La repentance est indispensable. La repentance et la foi. La repentance et la foi, c'est comme deux faces d'une même pièce. C'est inséparable. On ne peut pas véritablement croire en Christ sans se détourner du péché, et on ne peut pas véritablement se repentir sans se tourner vers Christ. Vous avez une pièce de monnaie, vous ne pouvez pas prendre juste un côté de la pièce. Si vous limez un côté de la pièce, il y a des grosses chances que ce ne sera pas accepté par le marchand. Le mot grec de repentance, je vous en fais grâce, mettons, ça signifie un changement de pensée qui entraîne un changement de direction. C'est comme quand une compagnie se vend, une compagnie est vendue, il y a un changement de direction. Il y a un nouveau contrat de travail, des nouveaux règlements, un nouveau contremaître, un nouveau propriétaire, des changements sur le chèque de paye. La repentance, ce n'est pas simplement regretter les conséquences de mon péché. J'ai volé, je me suis fait attraper, puis je suis en prison, je regrette les conséquences du péché. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement d'éprouver de la tristesse. Ce n'est pas seulement de promettre de ne plus le faire. La vraie repentance consiste à reconnaître qu'on a offensé Dieu. Ça consiste à haïr le péché et à nous tourner vers Dieu. Reconnaître que nous sommes en guerre avec Dieu et désirer faire la paix avec Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça, se tourner, changer de direction. Dans Marc, au chapitre 1, les versets 14 et 15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi faire la paix avec Dieu? Comment on fait la paix avec Dieu? Le Seigneur Jésus l'a prêché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et il faut éviter aussi le malentendu. La repentance, ce n'est pas une œuvre qui nous rend dignes d'être sauvés. J'ai changé ma conduite, je me suis repenti, j'ai changé ma conduite, ça me donne le droit d'être sauvé, je suis rendu assez bon pour être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés, pas par notre repentance, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi. On est sauvés par le don gratuit de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et on ne peut pas être sauvé si on n'est pas perdu. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas perdu, il ne peut pas être sauvé. Réaliser notre perdition est essentiel. Celui qui est après se noyer, il doit crier pour être secouru. Puis s'il n'est pas convaincu qu'il est perdu, qui a besoin d'aide, ben, il ne va pas crier, puis il ne va pas être secouru. Dès qu'il crie, les secouristes vont s'occuper de le sauver. S'il ne crie pas, il est perdu, puis il se noie. Quelle triste fin que de ne pas connaître, que de ne pas reconnaître que nous sommes perdus. C'est comme s'agripper à une bouée qui ne flotte pas. C'est ça, de ne pas reconnaître qu'on est perdu, de se fier sur nos œuvres. C'est comme se agripper une bouée qui cale. Comment on fait pour saisir ce salut-là que Dieu nous offre par la croix de Christ? L'apôtre Paul, encore dans Romains au chapitre 10, les versets 9 et 10, un passage qu'on connaît comme il faut, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, confesser de la bouche, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire d'être capable de dire qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie. Pourquoi devrions-nous être capables de faire ça? Pourquoi devrions-nous être capables de dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans nos vies? Parce que le salut, c'est tellement important pour nos vies. Le salut, c'est un changement d'administration, pour continuer mon analogie de tantôt. C'est un changement d'administration dans ma vie. J'ai changé de maître. J'ai un nouveau manuel d'inscription détaillé. J'ai aussi une grosse augmentation de salaire. Mes conditions de travail sont pas mal meilleures. Mais surtout, le plan de retraite, il est pas mal plus intéressant. Actes au chapitre 8, les versets 32 et 33. Ici, on a l'exemple d'un homme qui a confessé de sa bouche. Et cet homme-là, c'est l'eunuque qui était un politicien, un fonctionnaire d'un pays en Afrique. Et, semble-t-il qu'il s'était converti au judaïsme parce qu'il est allé à Jérusalem pour adorer, puis là, il s'en retournait dans son pays. Puis, en s'en retournant, il lisait les Saintes Écritures. Et regardez quel passage il lisait. Actes 8, 32 et 33. Le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Ça, c'est un passage dans le livre d'Ésaïe. De quoi ça parle? Il a été retranché de la terre, et ça parle du Seigneur Jésus, ça parle de la croix, ça parle du sacrifice de Jésus. Et, au verset 36, toujours du même chapitre, acte 8, 36, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Alors là, Philippe, il a annoncé l'Évangile à cet eunuque-là, il a expliqué comme faut l'Évangile, il a parlé du baptême, il a certainement parlé du baptême, parce que l'eunuque, il dit, « Il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Puis l'eunuque, il dit, Philippe lui répond, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors ici, la réponse peut nous sembler assez concise, mais certainement qu'il avait compris le salut, il avait compris que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il avait payé la rançon pour son péché. Philippe fit arrêter le char et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'eunuque? Il a confessé le Seigneur Jésus. Il a confessé le Seigneur Jésus de sa bouche. Après ça, ou je dirais même à partir de ce moment-là et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est la sanctification. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant qui le transforme progressivement à l'image de Jésus-Christ. La sanctification, contrairement à la justification, c'est un acte unique. Au salut, à la repentance, on est justifié. La sanctification, ça commence à la conversion, puis ça se continue. C'est un processus qui dure toute notre vie. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies pour nous rendre semblables au Fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, on est transformés, puis c'est graduel, ça se fait graduellement à partir du salut. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Excuse-moi, Yolande, c'est 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardez bien les temps des verbes ici. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alors, il parle au passé. Il parle à des chrétiens, puis vous avez été justifié, vous avez été sanctifié. Vous avez été mis à part. La sanctification a commencé à partir du moment où vous avez été sauvé, que vous avez accepté le Seigneur. Mais cette sanctification-là se continue. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. L'apôtre Pierre dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ah, ça continue la sanctification. 2 Thessaloniciens 2, 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Alors, la sanctification, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, puis ça dure le reste de notre vie chrétienne. Finalement, la finalité de tout ça, bien, c'est le repos éternel. C'est l'aboutissement du salut. Où ça nous mène, le salut? Est-ce que c'est juste ici, sur la terre? Si c'est notre espérance, notre seule espérance est ici, sur la terre? Exactement, exactement. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Le repos éternel est donc la pleine jouissance de la communion avec Dieu, lorsque toute trace du péché, la souffrance et la mort auront disparu. Ce repos est celui de l'âme. Celui qui vient à Christ, il cesse de travailler pour être en paix avec Dieu. Il a la paix avec Dieu. La Bible nous parle du repos futur parfait et éternel. Il y a donc, Hébreux 4, versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, l'auteur compare le repos que Dieu a eu après la création, au repos que les croyants vont avoir. Les croyants vont entrer pleinement dans ce repos lorsqu'ils vont être dans la présence du Seigneur. Le repos après les combats aussi, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 3, l'apôtre Jean, dans sa vision, il dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ah! Lorsqu'on a travaillé pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Il dit « Leurs œuvres les suivent. » Est-ce que ça les sauve? Non, mais ça les suit. Le repos éternel, dans Apocalypse 21, au chapitre verset 3 et 4, il dit ceci. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Alors, le repos éternel, c'est la pleine réalisation de la promesse de Dieu, une communion parfaite avec Dieu. Matthieu, au chapitre 11, verset 28. Jésus nous invite au repos. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Ce repos, c'est celui de l'âme. Celui qui vient à Christ cesse de s'inquiéter pour son salut, trouve la paix en Dieu. L'approche de la mort, ce n'est plus une angoisse, comme je l'ai dit tantôt. Donc, la repentance et la foi, c'est suivi de la justification. Lorsqu'on se repent et qu'on croit, c'est suivi de la justification. Lorsqu'on est justifié, on a la paix avec Dieu. La guerre est terminée, on a la paix avec Dieu. On est sanctifié, on est mis à part, et cette sanctification-là se continue jusqu'à ce qu'on soit dans la présence du Seigneur, et le repos éternel. Alors, la repentance, le pécheur se détourne du péché. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de salut. Si quelqu'un dit qu'il s'est repenti, qu'il s'est converti, puis qu'il continue à vivre dans le péché, ça ne marche pas. Selon les Écritures, ça ne marche pas. Le pécheur doit se détourner de son péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de péché, mais ça veut dire qu'on ne vit plus dans le péché, qu'on ne se complète pas dans le péché, et même que le péché nous attriste. À ce moment-là, Dieu déclare juste. La réconciliation, la paix avec Dieu est acquise. Dieu nous transforme progressivement, nous rend de plus en plus à la stature de Christ, semblable à Christ. Puis, le repos éternel, bien, on va jouir de la présence de Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 21, le verset 6, on peut lire ceci. « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. »
Amen.
Mais, d'habitude, je ne fais pas ça, là. Mais il y a une alternative à ça. Il y a un autre choix. Et si je le mentionne, c'est parce que moi, j'ai fait face à ce choix-là, puis j'ai pris la bonne décision, merci Seigneur. Apocalypse 21, à partir du verset 8. Il dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Alors, l'idée ici, c'est pas d'accepter le Seigneur par peur. C'est pour ça que je ne fais jamais ça. Mais c'est pour qu'on sache que le fait de ne pas connaître le Seigneur comme notre sauveur personnel, c'est pas juste, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Et pour finir, un dernier verset dans Luc, chapitre 16, verset 24, pour illustrer la gravité de ça, c'est l'homme riche qui est en présence d'Abraham, puis il lui dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Quel drame. Moi, le 10 mars 1977, j'ai lu ce passage-là de Apocalypse 21:8. Puis j'ai été frappé comme un sourd et aveugle qui est sur une voie ferrée puis qui n'entend pas le train venir. C'est comme ça que j'ai été frappé par ce verset-là. C'était instantané. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est face à cette décision-là, qui est face à cette situation-là? Si c'est le cas, vous avez besoin de venir au Seigneur, vous avez besoin de venir au pied de la croix. Le Seigneur, il accueille tout le monde en toute simplicité, en toute simplicité. Et si vous avez besoin, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide pour faire ça, qui a besoin de qu'on s'assoie avec lui, qu'on regarde la parole de Dieu, qu'on prie ensemble, bien, je vous invite à communiquer avec moi, avec Jean-Marc, avec Michel. On va se faire un devoir de vous aider de venir au pied de la croix. Que Dieu bénisse sa parole.